France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Michael Mann. Vers 19h45, le son du jour, Yes and d'Ariana Grande. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Paris pour nous faire assister au casting des musiciens du métro organisé comme chaque année par la RATP. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Félix Delacour, Nicolas Bonnet, Alex Dang et Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir Michael Mann, vous êtes à Los Angeles, je suis à Paris et l'opportunité de cette conversation m'est donnée par la mise en ligne sur Prime Video de votre dernier film en date, Ferrari, qui avait été présenté à la Mostra de Venise. On va bien sûr parler de ce film et en profiter pour en savoir un peu plus sur votre parcours et votre façon de travailler. Alors, il faut dire que vous êtes né à Chicago pendant la Deuxième Guerre mondiale et même si vous n'y vivez plus depuis longtemps, que pensez-vous qu'il y a de Chicago en vous?
Many things.
Beaucoup de choses. C'est drôle tout d'abord parce que il y a environ deux semaines, j'ai relu des lettres que mon père m'a écrites depuis la France. Il y était parce qu'il a participé à la bataille des Ardennes. Il a fait la guerre en tant que fantassin, en France. J'ai pu imaginer ce que ça avait dû être pour lui de savoir que j'étais à Chicago avec ma mère et le drame pour ma mère de ne pas savoir si mon père en reviendrait. C'est probablement parce que j'ai commencé à regarder la série documentaire Masters of War qui m'a fait revivre la Seconde Guerre mondiale de manière si vivante. Il y a une sensibilité urbaine à Chicago. C'est un fait peu connu que tous les réalisateurs de Chicago qui ont grandi dans le centre-ville font probablement le même genre de cinéma que moi. Ceux qui ont grandi dans les banlieues font des comédies, comme John Hughes. Et Friedkin, moi-même, Phil Kaufman, nous avons tous grandi en ville. C'est presque comme un Witz berlinois, un mot d'esprit. Je parle du Berlin de Weimar. Pensez à Spécial Première de Billy Wilder. C'est presque cette sensibilité. Ben Hecht, si vous voyez. Ce genre-là, oui.
Une question revient souvent avec mes invités. Est-ce que vous croyez en la vocation, Michael Mann? Est-ce que vous pensez que certaines personnes, comme vous, sont destinées à devenir artistes?
Probablement, mais je ne le savais pas. Tout commence par une sensibilité, peut-être à la musique dès le plus jeune âge, et une sorte de rêverie irresponsable, si vous voulez. Puis l'idée vous vient que vous voulez créer un impact sur les gens, avec de l'émotionnel, des pensées, de la provocation ou des contradictions. Et ça devient une impulsion. Je n'ai découvert que je voulais faire du cinéma qu'à l'âge de 20 ou 21 ans.
Alors, est-ce vraiment le fait d'avoir vu à 20 ans Docteur Follamour de Stanley Kubrick qui vous a fait aller vers le cinéma?
Oui, c'était en grande partie ça, oui. Et en grande partie, l'idée qu'il était possible de faire du cinéma et d'avoir une voix totalement indépendante, tout en ayant un impact sur le grand public. Ce qui signifie qu'il était possible de le faire. C'était pas facile, mais difficile. C'est une chose à laquelle on peut aspirer. J'étais pas vraiment attiré par la réalisation de courts-métrages artistiques pour un groupe très restreint. Je m'intéressais vraiment à l'impact social et à l'impact politique, en particulier dans les années 60.
Pour étudier le cinéma, Michael Mann, vous choisissez la London Film School. Et puisque nous allons parler de votre film Ferrari, il faut dire que votre court-métrage de fin d'études s'intéressait à Mike Elwood, champion du monde de moto. Que c'est dans ces années londoniennes que vous allez rencontrer le futur scénariste de Ferrari, Troy Kennedy Martin, et que c'est à Londres, en 1967, que vous avez vu une Ferrari 275 GTB 4 qui vous a coupé le souffle par sa beauté. Dans son manifeste du futurisme publié en 1909, l'Italien Marinetti écrit « Une automobile de course qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace ». C'est bien sûr référence au chef-d'œuvre de la sculpture de la Grèce antique. Mais vous avez possédé des Ferrari, je crois même que vous en avez encore une. Vous avez vous-même couru quelques courses. En quoi votre amour des voitures et le goût de la conduite vous ont été utiles pour réaliser Ferrari ?
Il y a une poésie profonde et puissante dans l'intégration de vous-même et d'une moto de grand prix, une bonne moto sportive ou d'une voiture, par exemple. Piloter une Ferrari, si vous voulez, ou conduire une Ferrari. Oui, il y a une intégration. Vous ne pilotez pas la voiture. Vous et la voiture ne faites plus qu'un. Vous êtes unifiés. Vous le faites selon un plan très architectural. Vous savez exactement où, à l'approche d'un virage, vous allez commencer à freiner. C'est là que j'entame la courbe, c'est là que je rétrograde. Vous passez une longue séquence de mouvements. C'est tout à fait comme un ballet. Lorsque vous le faites correctement, vous êtes suspendu à quatre ressorts mobiles. Les masses se répartissent dans toutes sortes de directions différentes. Et donc, maîtriser tout cela lorsque vous le faites correctement, ce que j'ai fait très rarement, je l'ai fait une ou deux fois, je l'ai fait, et je sais ce que l'on ressent. Et c'est une forme d'euphorie. Quelqu'un comme Jean Béra, le célèbre pilote de course français, l'a décrit néanmoins comme une extase à laquelle nous sommes stupidement dépendants. Parce qu'à l'époque où il courait, tout le monde se faisait tuer. Et probablement la moitié des pilotes qu'il connaissait en 57 étaient morts en 58 ou en 1960. Et c'était donc terriblement dangereux. C'était vraiment une passion mortelle, une passion létale. Une joie terrible, comme l'appelait Enzo Ferrari. Elle a un pouvoir addictif.
Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Le virage vient à vous. Vous traversez peut-être une crise d'identité. Suis-je un athlète ? Ou un compétiteur ? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Il est trop lent.
Enzo.
You're going broke.
How?
You spend more than you make.
So what do I do?
Win the mille miglia, Enzo. Or you are out of business.
This is a gun pointed at our head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand.
Well, half the cards are in my hand.
All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy.
No wonder when you'd be back.
How can I stay away?
If Anthony is looking for a scapegoat, then here I am.
You were supposed to save him. You promised me he wouldn't die.
The father deluded himself!
Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment.
Enzo. Va leur montrer qui est le plus fort.
Ce qui est très réussi dans Ferrari, Michael Mann, c'est justement votre façon de filmer les séquences de course. Filmer la vitesse, c'est un défi parce qu'il est très difficile de rendre physiquement cette expérience qu'on peut avoir si on est vraiment au bord de la route. Il se trouve que j'ai revu un peu par hasard il y a quelques mois votre film Hacker et je suis toujours impressionné par la façon dont vous avez réussi à filmer la progression justement du hack dans les réseaux, dans les ordinateurs. C'était au fond la même question, mais avec d'autres moyens. Comment filmer la vitesse? Alors, est-ce que pour Ferrari, il y a une réponse ou des réponses?
Filmer la vitesse est un défi. Je ne voulais pas filmer la vitesse. Il est facile de donner l'impression que quelque chose va vite. Il est également relativement facile d'obtenir des images très lyriques, au téléobjectif, de voitures serpentant, de belles routes de campagne. Et c'est pas du tout ce que je recherchais. Un acteur ou un réalisateur se demande toujours, quelle est l'action de la scène? Qu'est-ce que je veux comme effet de cette scène sur le public? Ce que je voulais, c'était le vécu. Je voulais subjectiver le vécu, et ça impliquait une approche complètement différente de la manière de filmer et de placer des caméras. Ça voulait dire mettre en place des systèmes différents, donc de mettre les caméras là où je les voulais pour que vraiment on sente à la fois la concentration du pilote et le fait qu'il ne soit pas conscient, lui, de ce que son corps subit. C'est d'ailleurs toute cette agitation. Mais donc c'était les deux. Vous agitez à la milliseconde en cours, mais le pilote se concentre sur la distance, parce qu'il ne pense pas à l'endroit où il se trouve. Il se projette à un ou deux virages plus loin. C'est donc ce vécu, la subjectivation du vécu que je recherchais, et non l'observation externe, qui peut être très lyrique et jolie, mais ce n'est pas ce que je voulais dire.
Si on reste derrière le volant, on peut aussi évoquer Collateral, film sorti en 2004 avec Tom Cruise en tueur à gages et Jamie Foxx en chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, c'est un des petits boulots que vous avez exercé, Michael Mann. La question du métier, elle est centrale dans votre filmographie. Il est important pour vous que vos comédiens aient une réelle connaissance de leur métier. James Caan a appris à percer des coffres pour Le Solitaire. Will Smith s'est mis à la boxe pour Ali. Colin Farrell a suivi des policiers infiltrés pour Miami Vice. Vous avez vous-même rencontré des tueurs en série avant de réaliser Le Sixième Sens. Et donc, Jamie Foxx a passé du temps avec des chauffeurs de taxi. Un métier, ça façonne un esprit, mais ça façonne aussi un corps. C'est la question, alors non pas du naturalisme, mais de la crédibilité. Vous voulez, vous, que vos spectateurs croient à ce qu'ils voient?
Ça commence par la confiance en soi de l'acteur. L'acteur doit croire qu'il peut le faire, qu'il le fait. Non seulement ça, mais qu'il n'ait même plus besoin d'y penser, que ce soit juste un réflexe. Il a cette confiance, et alors il est libre d'être cette personne. Il ne me viendrait jamais à l'esprit qu'un acteur puisse vouloir faire autrement que d'avoir pleinement intégré et maîtrisé les compétences que ce personnage est censé avoir. Parce que ça, ce n'est que le début, une fois qu'il a toutes ses compétences. Après, c'est si il a toutes ses compétences, alors je dois croire que je boxe réellement, que je suis vraiment un voleur. Et si c'est ce que je suis, alors comment, moi, le voleur, se sent-il? Qui est ma psychologie? Quel est mon comportement? Si je sors de prison, comment est-ce que je vais aller parler à une fille? Comment est-ce que j'aborde les conflits? Quel est mon point de vue sur le monde que je dois traverser comme un terrain dangereux, plein de menaces, où on risque de découvrir ce que je fais? Tout commence par l'activité que l'on est censé faire. Je ne peux pas imaginer quelqu'un, enfin moi je serais certainement pas intéressé à travailler avec un acteur qui n'a pas envie d'y aller. Pour nous, en le faisant, c'est une aventure merveilleuse, à tel point que nous ne voudrions pas le faire autrement.
Quel directeur d'acteur êtes-vous? Est-ce que vous aimez préparer le plus possible en amont avec les interprètes, Michael Mann, ou est-ce que vous aimez saisir les accidents du tournage, ou les deux?
Non, en fait, c'est l'inverse. C'est les deux à la fois. Nous parlons beaucoup, nous travaillons beaucoup, mais uniquement sur des sujets susceptibles d'être mis en œuvre. Personne n'a temps à perdre sur des choses qui ne sont pas pertinentes ou qui ne sont qu'un passe-temps. Par exemple, quelles sont les autorités attaquées? Enzo Ferrari était respectueux. Il était absolument respectueux de toute autorité. Mais quelles étaient les autorités qu'il ne respectait absolument pas? Il faut donc tout savoir sur l'Église catholique en 1957. Il faut également connaître le Parti communiste italien, qui était l'autre idéologie orthodoxe prévalant en Italie en 1957. Certains disent que ces deux idéologies expliquent pourquoi Modène était le sud du nord et le nord du sud, et une région industrielle très productive. Mais enfin, pour en revenir à l'irrévérence, l'irrespect, elle apparaît dans des petites répliques lorsque Adam Driver, l'acteur qui joue Ferrari, se plaint au journaliste de la façon dont il le dénigre. Il dit « Il y a de quoi faire pleurer le pape ». Et même ces petites piques viennent de sa manière d'être. C'est de là que ça vient.
Concernant les autres formes d'art qui nourrissent votre travail, j'ai lu que pour Public Enemies, vous aviez demandé à ce qu'on ouvre le Art Institute of Chicago un soir pour emmener Marion Cotillard et Johnny Depp voir les toiles d'Edward Hopper, les toiles de près, dans les meilleures conditions possibles. Alors, est-ce que la peinture reste pour vous, Michael Mann, une source d'inspiration d'un film à un autre?
Tout est source d'inspiration. La musique est source d'inspiration. La peinture est source d'inspiration. Tout ce qui capture un moment, le met en bouteille et vous permet d'y accéder, c'est terriblement important pour moi. Parce que dans la précipitation du travail sur le tournage, lorsque vous dites à 300 personnes ce qu'elles doivent faire et tout ça, pour moi, c'est formidable d'avoir une sorte de module émotionnel ou poétique auquel je peux me relier. Si je regarde un certain tableau de Hopper, je dis oui, c'est vrai. La façon dont il utilise la lumière, l'isolement de l'individu, la bifurcation du cadre, c'est en deux parties. Toutes ces choses sont devenues importantes. Ou alors si j'écoute Audioslave, le groupe de rock alternatif américain, par rapport à Collateral, ou de la musique celtique, pour un week-end, parce que tous ces gens qui vivent à la frontière sont les réfugiés de l'Ouest américain. La nouvelle population de réfugiés a été envoyée dans les taudis du XVIIIe siècle, l'équivalent de la frontière, parce que c'était dangereux. Eh bien, ils venaient tous des régions frontalières entre l'Écosse et l'Angleterre. Il y a des Écossais irlandais. Quelle musique écoutaient-ils? Et puis, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça rentre en jeu.
You know, if you just listened to me, we'd be all bogged down in traffic right now, and you would have made yourself an extra $5.
Yeah, well, you keep that $5, buy you something special.
I'll take it.
I got 5 stops to make.
What's your name?
Max.
Max. I'm Vincent.
I'll meet you in the alley behind the building.
Oh, no! What the hell?
You killed him.
Red light, Max.
Hold on.
Man, you were gonna drive me around tonight and never be the wiser, but we're into plan B.
Faire au mieux avec ce qu'on a. Improviser, s'adapter aux événements.
nous ce que tu veux, mais il faut faire avec ce qu'on a. Vous l'aviez jamais vu vous le tuer comme ça?
Quoi, je dois faire ami-ami avec eux avant de les tuer?
C'est au-dessus de mes forces.
Depuis quand tu négocies avec moi?
Un homme, un certain Vincent. Ok, j'ai un autre homicide. Tout ce que je sais, c'est qu'il a tué d'autres témoins. Et que maintenant, c'est votre tour.
Max! Je fais ça pour vous!
Pour Collateral et cette façon si unique de filmer Los Angeles la nuit, il faut aussi parler de technologie, car je crois que vous avez été le premier, Michael Mann, à filmer un long métrage en haute définition numérique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'un outil. Et ce qui est important, c'est comment on exploite cet outil. Pour vous, il s'agit toujours de, et encore, de rendre la fiction plus réelle, plus crédible. On voit dans Collateral la vraie lumière de Los Angeles la nuit.
That's exactly right.
C'est tout à fait exact. Je voulais voir l'intérieur de Los Angeles la nuit. Ce n'était pas possible avec un film argentique, parce qu'on aurait dû travailler avec une ouverture de diaphragme qui donnait une très faible profondeur de champ. Et tout ce qui se trouvait au-delà du premier plan était flou et ou invisible. On a commencé à expérimenter le numérique. Je l'ai fait à un petit niveau, dans quelques scènes, et c'était crédible. J'ai eu l'impression d'être vraiment là. Et je me suis demandé pourquoi ça faisait cet effet. Eh bien parce que ça semblait atténuer l'éclairage théâtral. Mais moi, j'adore l'éclairage. Soit dit en passant, mon héros, c'est Vittorio Storaro. Donc j'aime l'éclairage. Mais dans la réalité urbaine, lorsque tout le film se déroule en une seule nuit à Los Angeles, je voulais le dire. Nous avons alors utilisé la technologie dont vous avez parlé, mais je crois que la technologie parle pour elle-même. Elle ne m'a jamais intéressé pour imiter l'argentique. Je voulais l'exploiter pour ce qu'elle est, comme l'utilisation de l'acier dans les gratte-ciels de New York. Ils ne savaient pas quelle forme devait prendre le bâtiment. Ils pouvaient construire de grands bâtiments, mais ils n'avaient aucune idée de la forme qu'ils devaient avoir. Alors ils en ont fait un bâtiment classique, comme on construit une villa avec un premier étage noble, puis 30 étages de rien du tout, et un fronton au sommet. Chicago, en revanche, et c'est l'une des vertus de Chicago, a développé le gratte-ciel, qui a pris sa propre forme en fonction de ce que l'on pouvait faire avec de l'acier. Et c'est ce qui réunit Miss Van Der Rohe et les bâtiments classiques comme l'Amoco Building à Chicago. En tout cas, c'est ce qui a évoqué ce sentiment de qualité surréelle. D'ailleurs, c'est de là que ça part. Los Angeles, la nuit en hiver, a une qualité de beauté surréelle, c'est stupéfiant. Ça parle d'aliénation, c'est comme un paysage de rêve. On flotte dans la ville. C'est tout simplement merveilleux. C'est ce que j'ai essayé de capturer.
La crédibilité, ça passe aussi par le travail sur le son. Et pour évoquer à nouveau votre nouveau film Ferrari, vous avez été enregistré le V12 d'une Ferrari 250 GTO prêtée par un collectionneur. Il vous fallait le véritable son de cette voiture.
Absolument. Il n'y a rien qui sonne comme un échappement de compétition, un vrai V12 de compétition. C'est un son qui... Vous savez, les gens deviennent poétiques à propos du son, alors excusez-moi, mais c'est passionnel. C'est quasiment effrayant, c'est redoutable. On dirait que quelque chose est en train de se déchirer. C'est la musique produite par 12 pistons, 48 soupapes, des arbres à cames à chaîne d'entraînement et toute cette machinerie comme une belle montre suisse. Une belle montre suisse qui tourne 8000 fois par minute. Alors, vous pouvez imaginer, c'est tout à fait incroyable. Les mécaniciens qui apparaissent dans le film sont tous d'anciens mécaniciens de Formule 1 de Ferrari. L'un de ces gentlemen que nous avons appelé Pietro avec la petite moustache brune était le mécanicien en chef de Niki Lauda. Un autre mécanicien qui a un rôle parlant est l'ancien mécanicien en chef de Michael Schumacher. Et tous deux ont dit que tout ce qui a suivi la Ferrari V12, tout ce qui est venu après la Ferrari V12, c'était que des machines à laver.
Puisque l'on parle de son, on va parler de musique, Michael Mann. Et avant de découvrir votre choix musical pour cette émission, il m'a semblé reconnaître, une fois encore, la voix de Lisa Gerrard dans certaines séquences de Ferrari. Lisa Gerrard, la chanteuse de Dead Can Dance, qu'on entendait déjà dans Hit, dans Révélation et dans Ali. C'est une de mes idoles, mais comment est-ce que vous choisissez les séquences où nous l'entendons ?
C'est une décision artistique purement émotionnelle. Ça peut devenir transcendant, comme autant d'éléments qui se rejoignent, comme lorsque Jamie Foxx et Tom Cruise se dirige vers un conflit. Il va y avoir un combat. Ils sont tous deux introspectifs. Il y a les palmiers, la façon dont ils se courbent la nuit. Et puis il y a Shadow on the Sun de Chris Cornell. Et pendant ce temps-là, il y a un coyote qui traverse la rue. Il y a des anomalies, de l'introspection, tout ce qui se produit dans le même temps, une certaine suspension visuelle de la réalité. À cause des palmiers courbés par le vent nocturne de Los Angeles. Il y a quatre ou cinq éléments qui peuvent s'assembler d'une certaine manière, et la colle qui les maintient ensemble pourrait devenir un morceau de musique. Lisa Gerrard, à qui vous avez fait référence, de Dead Can Dance, et son travail m'ont vraiment parlé de manière très puissante sur Insider, Révélation en français. J'ai fait appel à elle pour certaines séquences de Heat. Elle a participé à la BO de Révélation. Et je l'ai utilisé à nouveau dans la scène où Enzo traverse le site de l'accident Guidizolo parmi tous les morts.
Vous avez évoqué Shadow on the Sun d'Audioslave que l'on pouvait entendre dans Collateral. C'est votre choix musical, Michael Mann, pour cette émission. On l'écoute.
Once upon a time, I was of the mind to lay your burden down, leave you where you stood. You believed I could, you'd seen it done before. I could read your thoughts.
You could do the same. I can't tell you.
Je repasse encore de Collateral à Ferrari, Michael Mann. L'action de Collateral dure le temps d'une nuit. Ferrari se concentre sur quelques mois de la vie d'Enzo Ferrari, mais des mois qui déterminent sa vie. Alors si certains s'attendent à un biopic traditionnel, le récit d'une vie, vous avez choisi, sur l'idée de départ du scénariste Troy Kennedy Martin, un moment charnière. Et ce qui est moteur, vraiment si on peut le dire dans tous vos films, c'est le conflit. Et là, il y a du conflit dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle d'Enzo Ferrari. C'était le cas aussi, hein, par exemple, du flic interprété par Al Pacino dans Heat. Et les scènes chez lui, avec sa femme, sont aussi importantes, me semble-t-il, que la traque du criminel. Vous aimez que la tension soit partout pour vos personnages.
Yes,
oui.
And usually they are in life.
En général. Elles le sont dans la vie. Votre vie est complexe, ma vie est complexe.
Je
suis devenu très ambitieux dans le fait de ne pas réduire les personnages à des codes bidimensionnels. Pour moi, tout le monde a une vie, tout le monde a une famille, tout le monde a des conflits. C'est la nature même de la vie. Et puis ensuite, on meurt. C'est tout. Je suis toujours attiré par l'idée de dimensionner les personnages pour en faire de véritables situations humaines. Le personnage joué par Al Pacino, Vincent Hanna, est accro à son expérience augmentée de la vie en tant que chasseur. C'est un chasseur, un chercheur, un explorateur, un découvreur. Il est à la poursuite de Neil Macaulay. Il y a un moment à l'hôpital, après que Natalie Portman a tenté de se suicider, il est assis avec Justine et elle lui dit « Est-ce qu'on peut se remettre ensemble ?» C'est un moment de sagesse. Et il dit ça ne va pas marcher. Tout ce que je suis, c'est celui que je poursuis. Et c'est la vérité.
Il nous faut bien sûr parler de Heat et du livre que vous avez écrit avec Meg Gardiner, Heat 2, qui retrouve les personnages de votre film avant, mais aussi après la période que couvre le film. Ma première surprise, d'ailleurs, en découvrant ce livre, a été de me dire que ces personnages ont dû vivre en vous pendant toutes ces années. Rappelons que le film Heat est sorti il y a presque 30 ans. Est-ce que ce sont ces personnages qui vous ont rappelé Michael Mann ?
They never left.
Mais ils ne sont jamais partis.
They were always in the house.
Ils étaient toujours dans ma maison.
Ils
sont partis parce que nombre d'entre eux sont basés sur des personnes que je connais ou que j'ai connues. Le personnage de Vincent Hanna est probablement basé sur deux ou trois personnes, mais probablement l'une d'entre elles. Charlie Adamson a tué pour de vrai. Hein. Leo Macaulay a été tué en 1963 par Charlie Adamson à Chicago. Un certain nombre d'autres personnes contribuent au personnage de ce chasseur avide. Je connais des gens qui mènent aujourd'hui des opérations à l'échelle mondiale, des narcoterroristes qui sont à peu près dans la même veine. Rien ne peut les dissuader de poursuivre leur activité. Qu'ils aient coincé Manzer Al-Kassar ou coincé Victor Boot, je trouve fascinante la mentalité qui les anime. En général, ce sont des gens très intelligents, très sensibles, très motivés. C'est des gens. Non, ils ne sont jamais vraiment partis. L'une des choses qui m'ont le plus fasciné, c'est de savoir qui est Chris Chehalis, le personnage joué par Val Kilmer. Quel est son avenir ? Quelle sera sa vie ? Parce que dans le roman, lui aussi s'intègre et s'unifie en tant qu'individu. Avant cela, les deux seules personnes qui sont comme ça sont Vincent Hanna, le personnage d'Al Pacino, et Robert De Niro, qui joue le rôle de Neil Macaulay. Ce sont les deux seules personnes dans tout le roman qui sont totalement conscientes de leur vie, de leur situation. C'est ainsi que toutes ces choses deviennent, d'une certaine manière, des éléments de la vie. Il s'agit de personnes réelles, dans une situation réelle, de ce à quoi elles sont confrontées dans leur vie. Et c'est ce que nous exploitons, je pense. Vous savez, Un acteur m'a dit il y a longtemps qu'il n'y a rien dans ma propre expérience, même s'il est très embarrassant ou tragique, que je n'exploiterai pas pour transmettre une émotion. Ce qui signifie que sa propre vie était un instrument dont il jouait. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens qui font ce que je fais.
Dernière question. De fait, It 2 sera-t-il votre prochain film ?
Yes.
Oui.
Si
vous voyez le bureau devant lequel je suis assis, vous verriez dans l'état dans lequel je me trouve, c'est-à-dire en plein en train de terminer le scénario.
Je rappelle que votre nouveau film Ferrari avec Adam Driver, Penelope Cruz et Shailene Woodley est à voir sur la plateforme Prime Video. Merci, Michael Mann, d'avoir été notre invité.
My pleasure. Thank
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour vos excellentes questions. C'était un plaisir.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Et si, au lieu de voir l'empereur Napoléon défiler dans les rues d'Iéna en 1806, Hegel avait regardé les clips d'Ariana Grande en 2024, peut-être aurait-il eu la même réaction, celle de voir l'esprit absolu se réaliser sous ses yeux. Blague à part, il y a quelque chose de nécessaire, d'évidemment actuel, de mainstream, disons, dans ce qu'incarne la chanteuse américaine. De ses débuts dans une sitcom pour adolescents à la comédie musicale Wicked, qui sortira au cinéma en fin d'année, Ariana Grande s'est imposée comme une artiste incontournable de l'industrie musicale. En 6 albums, parus entre 2013 et 2020, elle a gagné un public fidèle, aussi bien ému par sa technique vocale que par ses textes nourris d'empowerment et de récits de ruptures amoureuses. Drôle, généreuse avec ses fans, dotée d'un look facilement identifiable, elle coche toutes les cases de la pop star, à commencer par sa collaboration avec Max Martin, véritable fabricant de tubes. Ce producteur suédois est l'homme derrière Baby One More Time de Britney Spears et des plus grands succès de The Weeknd et Katy Perry, pour ne citer que cela. C'est sans surprise qu'on le retrouve à la manœuvre d'Eternal Sunshine, le nouvel album d'Ariana Grande, qui contient quelques morceaux taillés pour les charts comme Yes And, c'est notre son du jour. And Diana Grande. C'est un extrait de son nouvel album Eternal Sunshine.
France Culture, le grand tour, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir, chère Marie, où vos pas vous ont-ils porté ce soir?
Bonsoir, Arnaud, je suis ce soir à Paris pour assister au casting des chanteurs du métro. Et oui, n'importe qui ne peut pas chanter dans le métro parisien. Il faut avoir une autorisation et être adoubé par la RATP. Tout ça se passe lors de casting. Eh bien, c'est aujourd'hui. Nous sommes conviés à venir assister à cette première salve de chanteurs, groupes et musiciens qui vont se proposer pour pouvoir ensuite jouer dans le métro.
Bonjour, vous voulez bien me suivre? Allons-y gaiement. Allez. Bon, les castings, ça se passe par ici. Ah oui, il faut que je crée de la porte, je vais chercher une cale aussi. On est un peu... C'est le premier jour, ça va être vite se rôder.
Il y a combien de jours de casting?
Là, on est jusqu'à mi-avril.
Ah oui, c'est
ouais,
bon.
Bon, on ne fait pas tous les jours non plus. On se garde une petite journée, voire deux sur les certaines semaines, pour justement décanter tout ce qui a été pris en vidéo, reprendre les notes des jurys pour être sûr de nos choix et du choix des jurys, parce que des fois, il peut y avoir ballotage, on n'est pas forcément d'accord avec eux. Mais voilà, on essaye de se garder au moins une journée par semaine. Mais là, on commence aujourd'hui, c'est tout le premier jour des castings du printemps. Et on finit le 19 avril, je crois.
Il y a combien de candidats à peu près, là, sur toutes
entre,
ces auditions?
Entre 11 groupes d'artistes ou artistes par jour.
Ah oui, ça fait...
Et 11 minimum, des fois on en a un peu plus, des fois on a un peu moins, des fois des désistements. Bon, on essaie de se tenir en sachant qu'il y a énormément, énormément de demandes. Voilà, c'est...
Donc le métro est un lieu prisé pour venir chanter ou jouer?
Ah ben, il faut le croire. Ça fait 27 ans que c'est prisé, et c'était déjà prisé avant que la RATP légifère un peu tout ça et mette en place ses castings et normalise un peu le système et puisse donner ses accréditations en bonne et due forme. Mais voilà, le label, enfin pas, c'est pas un label, le dispositif existe depuis maintenant plus de 27 ans. Donc il faut croire que ça plaît et ça crée toujours autant d'engouement vu le nombre de demandes qu'on a qui arrivent à chaque coup, en sachant qu'on a deux castings par an, celui du printemps et celui d'automne, et à chaque coup c'est... des milliers de personnes pour 300 accréditations à chaque coup, par contre.
Vous nous acceptez dans la salle, là, qu'on aille jeter une oreille?
On va aller jeter un petit coup d'œil. Il y a encore des membres du jury qui attendent pour s'asseoir. Puis il faut que je les briefe aussi, parce que c'est des nouveaux, ils ne savent pas comment ça marche. Bonjour. Bienvenue à ces premiers castings du printemps des musiciens du métro. Donc, sur vos sièges, vous avez des petites plaquettes ou tablettes sur lesquelles il y a le planning des auditions d'aujourd'hui, planning provisionnel, parce qu'on n'est pas à l'abri de désistements de dernière minute, de retard ou autre. Donc vous avez le nom des groupes ou des artistes qui vont se présenter devant vous, avec le style ou les instruments, et si ce sont des nouveaux artistes, pour qui c'est la première fois pour le casting, ou des renouvellements, des artistes qui ont déjà eu la chance de participer à un casting et déjà eu l'opportunité de jouer dans nos couloirs ou dans nos stations. Voilà. En sachant que lorsqu'ils obtiennent une accréditation, c'est valable que 6 mois. Ils doivent faire donc systématiquement, si l'aventure leur a plu, de faire une demande de renouvellement tous les 6 mois. Ce qu'on vous demande surtout, la priorité, c'est de vous mettre à la place d'un voyageur et de se dire aujourd'hui, sur mon trajet métro, boulot, dodo, comme on dit vulgairement, à un moment donné, j'entends un son, une voix, quelque chose qui va faire que je vais m'arrêter. Même si je n'aime pas forcément ce style musical, hein, parce que vous allez voir, aujourd'hui, on écoute de tout. Enfin, aujourd'hui, c'est très guitare-voix, il y a un peu de piano, un peu de rock, un peu de tout, mais on caste de tout. Il y a des instruments médiévaux, des instruments qui viennent du monde entier, des groupes, des solos, voilà. Mais ce qu'on vous demande, c'est aujourd'hui vraiment vous mettre dans la peau d'un voyageur et de se dire, voilà, tiens, ça m'interpelle. Je vais m'arrêter. une seconde, 10 secondes, 1 heure, j'ai raté ma correspondance parce que je connais pas ce style de musique-là et, ou cette voix-là et ça me parle, ça m'arrête, enfin, voilà.
Bonjour madame, vous êtes ici dans cette salle, le casting va bientôt commencer, vous êtes donc membre du jury, comment vous vous êtes retrouvée là ?
Eh bien, je travaille dans le métro, sur la ligne 8. Il y a eu une proposition sur l'intranet et j'aime beaucoup la musique, j'en écoute beaucoup et je suis très sensible à la musique dans le métro. Donc, ça a été logique pour moi de me retrouver ici.
C'est votre première fois en tant que jury ?
Alors non, c'est la deuxième fois. J'ai fait le casting d'automne et donc je suis très contente de revenir 6 mois après.
Votre expérience justement du casting d'automne, vous avez vu cette diversité musicale dont parlait...
Ah oui, complètement, complètement. C'est des groupes qui n'ont rien à voir. Alors bien sûr, on retrouve souvent le cliché du monsieur avec sa guitare. Ça oui, beaucoup, beaucoup. Mais par contre, non, il y a beaucoup de choses, c'est très éclectique.
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est la première fois et qui veut bien parler ? Ah monsieur, vous c'est votre première fois en tant que jury ?
Oui, moi c'est la première fois. Ouais.
Alors pourquoi vous êtes devenu jury et où est-ce que vous travaillez ?
Alors moi je travaille dans le réseau à l'inspection, PRPS. Et après,
vous êtes dans les bureaux.
Dans les bureaux, ouais. Au bureau et la voie aussi.
Je
contrôle les chantiers. Et je prends beaucoup le métro. Et du coup, il y a. Souvent, je me suis dit, c'est les artistes, il y a certains artistes qui sont intéressants. Et je voulais savoir comment ça se passe. Et du coup, j'ai eu la proposition. Je me suis dit, bah, je vais voir, je vais participer. Et tu vois.
Est-ce que vous avez fait connaissance les uns les autres ou pas du tout ? Non ? Alors, let's go. On va commencer par là.
Véronique, j'ai passé 33 ans sur la ligne 8 et depuis le 1er décembre, je suis en retraite.
Bruno, je suis à RATP Infrastructure depuis 2019 et je suis en inspection.
Sonia Sparowski, je suis à RATP depuis 2014 et à la BURSF depuis juillet 2023.
Très bien. Alors le mot d'ordre, bien évidemment, c'est objectivité, parce que c'est important. Et c'est aussi beaucoup de bienveillance. Ce qui veut dire que chaque artiste qui va se présenter cet après-midi, je pose des questions. En fonction du timing, je vous propose d'en poser une ou deux. Voilà. Ils vont tous se succéder à raison de 2 chansons par groupe. Et puis en toute fin de journée, on va se poser, prendre le temps de discuter et je vais recueillir en fait vos retours, vos plus, vos moins, ce que vous avez aimé, détesté. Est-ce qu'il va y avoir des battles ou pas entre le monde du jury ? Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Hein. En même temps, on défend ses points de vue, c'est important.
Mesdames, messieurs, je demande d'accueillir Alexis et Sophie. Ou Sophie et Alexis, c'est mieux comme ça.
Bonjour.
Ce sera de ce côté-ci. Vous avez un pupitre s'il y a besoin. Les micros, je vais venir vers vous. Est-ce que vous avez besoin d'être assis ? Vous restez debout pendant la prestation ?
Non, on va être debout.
Tous les deux debout ?
Ouais.
Ok. Moi, j'avais noté Alexis et Sophie,
ouais.
C'est ça. Est-ce que le duo a un nom en particulier ou on en reste à Alexis et Sophie ?
On s'appelle Gilles et Gisèle.
D'accord. Alors, la pièce, elle n'est pas très grande. Néanmoins, est-ce que vous avez besoin d'être sonorisé ?
Oui.
Oui, complètement.
Alors, normalement, quand même. Ah, c'est
oui.
Pas mal.
Je me concentre sur votre micro.
Oui.
Alors.
Bonjour. Bah, c'est pas mal, ça. Ouais.
On n'est pas à l'aréna, hein, je précise.
Ça va, c'est pas trop fort pour vous ?
Donc,
super.
À vous.
D'assister à votre casting. Là, c'est la première fois que vous tentez le casting du métro ?
Alors, moi, je l'avais déjà tenté quand j'étais guitariste classique il y a un peu moins d'une dizaine d'années.
Et je l'avais obtenu, mais finalement, je ne l'avais pas utilisé du tout, parce que je n'étais pas amplifié à l'époque, et la guitare classique dans le métro, c'était compliqué. Mais du coup, je connaissais son existence, j'avais envie qu'on le réessaye.
Donc maintenant, vous êtes en duo, Gilles et Gisèle, c'est ça? J'ai bien retenu.
Oui, bien joué.
Qu'est-ce que ça va vous apporter de jouer dans le métro si vous arrivez à décrocher le fameux badge dont on parle depuis tout à l'heure?
Alors, l'occasion, en fait, de se confronter à un public beaucoup plus large que les petits cafés ou petites soirées intimes qu'on peut faire dans les cadres dans lesquels on a déjà joué, en fait, c'était vraiment ça. Le métro, ça va être un peu plus stressant, ça va être... Après, comme je disais, moi, j'aimerais bien avoir cette occasion-là aussi d'apporter cette musique douce qu'on propose en espérant adoucir un peu l'ambiance et l'humeur des gens... qui passe dans les correspondances stressées.
Est-ce que vous allez le prendre comme un endroit de répétition, alors répétition au sens large, c'est-à-dire vous chantez à deux voix, on vient de l'entendre, vous jouez de la guitare, donc j'imagine que c'est aussi des endroits où vous pouvez travailler vos morceaux, vous écouter, chanter ensemble, ou est-ce que pour vous c'est vraiment un endroit de représentation ?
Non, je crois que c'est un endroit de représentation, mais par contre, c'est un petit peu l'équivalent de la représentation de rue, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même représentation qu'en privé ou dans une salle, et donc ça implique de, on joue pas pareil, on n'attire pas l'attention des gens de la même façon, on donne pas la musique de la même façon, et ça, ça forme, c'est génial, quoi, c'est une vraie école.
Donc rendez-vous dans 7 à 10 jours, ça, pour la réponse?
Voilà, on attend le mail de retour.
Bon, bah, bonne chance, alors.
Merci,
merci
beaucoup.
Merci.
Mélanie, pardon, et Déborah, hein, c'est ça.
Médanie.
On est dans un style plutôt quoi?
Gospel.
Ouais.
On a en répertoire en portugais, donc notre langue maternelle.
D'accord.
On arrive à chanter aussi en anglais, et en français aussi, et en espagnol. Ven aquí, no me corazón.
Bonjour, Marie.
Marie,
enchantée.
France Culture.
Qui est en renouvellement, là, ouais. Monsieur? Donc vous étiez déjà musicien dans le métro, et là, vous venez ici au casting pour un renouvellement.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut tous les 6 mois redemander l'autorisation de chanter dans le métro?
Exact.
Et comment ça se passe, en fait? Vous revenez, vous repassez le casting, vous allez chanter les mêmes chansons? Comment ça se passe concrètement?
Je ne chante pas les mêmes chansons. Là, je vais faire des compositions. Il faut à chaque fois repasser le casting. On est toujours devant un casting de gens très bienveillants, parce que c'est des gens de la RATP, en fait. C'est pas... des professionnels de la musique, c'est des gens qui sont des roulants, des techniciens, etc. Donc on joue devant 7 personnes qui sont un vrai public, c'est ça qui est un peu fun.
Et qu'est-ce que vous chantez ou jouez dans le métro, vous, habituellement?
Des chansons, des reprises. C'est pour ça que là, c'est un peu nouveau, parce que je vais faire des compos, mais des chansons de la variété internationale et française, mais beaucoup internationales, beaucoup américaines, des Beyoncé, des choses comme ça, des choses qui font plaisir.
Et vous avez un spot particulier? Vous jouez toujours au même endroit?
Non, je change. Ce qui n'est pas forcément toujours une bonne option, mais je change beaucoup.
C'est un peu risqué de chanter des chansons que les jurés ne connaissent pas, ou vous parliez de bienveillance
Non, je ne pense pas que ce soit risqué. J'ai l'impression, au contraire, qu'il faut essayer de se démarquer. C'est quand même plus simple de se démarquer avec des trucs à soi qu'avec des reprises, quoi.
Merci.
Suite du Grand Tour lundi, Marie Sorbier, où serez-vous?
Lundi, Arnaud, je serai à Clermont-Ferrand pour le festival Vidéoforme dédié aux arts vidéo et numériques.
Merci Marie, à lundi. Cette émission et toutes celles de la chaîne, c'est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pino, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.